When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si je vous parle d'un groupe américain richissime et surpuissant, dont les services servent à des milliards d'êtres humains partout dans le monde, y compris vous, et pas plus tard qu'aujourd'hui, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et vous me dites...
Google ?
Amazon ?
Apple ?
C'est pas faux, mais c'est pas la réponse que j'attends. Je ne vous accable pas parce que c'était un peu une question piège. Le groupe que l'on cherche, c'est BlackRock. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Peut-être que vous savez vaguement qu'il s'agit d'un gestionnaire d'actifs, mais que vous ne vous sentez pas vraiment concerné. Si c'est le cas, il va falloir réviser votre jugement. Parce que votre lien avec BlackRock n'est pas palpable comme une recherche Google ou une demande d'amis sur Facebook, mais il existe. Tout simplement parce que le groupe gère l'argent qui dort sur votre compte en banque, et aussi l'assurance de votre voisin, et aussi la retraite de millions d'Américains financés par des fonds de pension. Et je pourrais continuer la liste longtemps. Au total, le portefeuille de BlackRock est rempli de près de 10 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent de tous les stocks d'or dans le monde. Alors là, normalement, vous commencez à être intrigué. Ça tombe bien. Gardez vos écouteurs, montez même un peu le son. On va vous raconter l'incroyable histoire du Google de la finance. Épisode 1, l'hyperactif BlackRock. Et quand on parle de finance à l'Express, on fait appel à notre spécialiste Raphaël Bloch du service économie. Salut Raphaël.
Salut Xavier.
Toi, tu aurais proposé la bonne réponse à ma devinette ?
Ouais, je pense.
Oui, enfin, en même temps, tu triches, parce que tu enquêtes sur le géant de la finance depuis plusieurs mois maintenant. Et au début de l'histoire, il y a un homme qui s'appelle Larry Fink. C'est qui ?
Larry Fink, c'est un petit génie de la côte ouest qui a fait des études d'immobilier et qui est très intéressé par les marchés financiers. Et c'est vrai que quand on parle de marchés financiers, forcément aux États-Unis, on parle de Wall Street. Donc, à la fin des années 70, il va arriver à Wall Street. Et lui, contrairement aux autres, en fait, il a compris très vite que finalement, c'était peut-être moins les outils financiers que les machines et la technologie qui allaient prendre le pouvoir à Wall Street. Et dans les années 80, donc Larry Fink était, a connu plusieurs établissements, notamment la First Boston, qui était une banque qui a depuis disparu. Il a fait pas mal de business, hein, il a fait quelques gros coups. Et comme beaucoup de jeunes qui déboulent à Wall Street, il va connaître son premier échec. En 1987, il va perdre 100 millions de dollars à cause d'un retournement du crédit immobilier aux États-Unis.
Et un an plus tard, BlackRock voit le jour.
Exactement, c'est-à-dire que Larry Fink a quand même encore un beau réseau. Donc avec sept de ses amis, il décide de créer BlackRock avec une idée simple, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils se disent, voilà, les marchés se mondialisent, il y a des capitaux partout, donc il faut absolument croître le plus vite possible pour prendre de vitesse les autres gestionnaires d'actifs.
Et pour faire ça, pour grossir très vite, il doit convaincre un maximum d'institutions et de clients de lui confier leur argent et celui des particuliers.
Ouais, exactement. Et finalement, pour réussir à convaincre les investisseurs et les particuliers de leur confier cet argent, il faut qu'ils soient en mesure d'offrir des investissements un peu partout sur la planète. Et donc là, ils vont se lancer dans une grande phase d'acquisition dans les années 90. Ils vont acquérir plusieurs sociétés. Ils vont également le faire en 2000 jusqu'à leur premier gros coup en 2006. C'est le rachat des activités de gestion d'actifs de Merrill Lynch.
Merrill Lynch, la grande banque d'affaires américaine. Et deux ans plus tard, c'est la crise des subprimes.
Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent. Paris perd près de 4%.
Exactement. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment le coup de maître de BlackRock et de Larry Fink, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, la plupart des fonds d'investissement, des banques, qui sont les autres gros acteurs à Wall Street, sont tous pris dans la crise, ce qui n'est pas le cas de BlackRock, parce que BlackRock, eux, ils sont plutôt sur tout ce qui est dette, alors que là, c'est une crise qui touche essentiellement les marchés actions. Et donc, BlackRock va regarder un petit peu où est-ce qu'il y a des opportunités, où est-ce qu'il y a moyen de trouver une ou deux sociétés à racheter, et ils vont tomber sur l'activité de gestion d'actifs de Barclays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une très belle pépite.
Et cette pépite dénichée au milieu des ruines de la crise financière de 2008 s'appelle iShares. Elle appartenait donc jusque-là à la banque britannique Barclays, et sans elle, BlackRock n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Vous écoutez toujours le même podcast, il est toujours question de finances. Et pourtant, on va maintenant parler de parfum de glace. Raphaël, c'est à toi.
Donc cette fameuse pépite, iShares, est une société un peu particulière. Elle crée et commercialise des ETF. Ce sont des fonds négociés en bourse. Alors Xavier, je te connais, tu vas me demander la petite définition dans la moire. Mais ce que je te propose, c'est de t'expliquer les ETF avec les glaces.
Ah, ça me parle.
Bon, imagine, t'es chez les glaciers, voilà, t'as envie de prendre plusieurs parfums. Mais finalement, ce qui peut être un peu frustrant, c'est que dans un cornet ou dans un pot, tu ne peux mettre que deux ou trois saveurs. Et ben, l'avantage avec les ETF, c'est que tu peux demander à avoir tous les parfums du magasin.
À la fois caramel, beurre salé, melon et chocolat.
Exactement, c'est-à-dire que finalement, l'ETF te permettrait de repartir avec, alors je sais pas si t'aimes les pots ou les cornets.
Plutôt cornet,
ben donc avec un cornet où il y aurait tous les parfums du magasin. T'aurais un coup de cuillère de chaque parfum dans ton cornet.
Et donc, dans ta métaphore, si je te suis bien, les parfums de glace, c'est les produits financiers.
Ce sont les actions de telle ou telle entreprise. Donc, par exemple, si tu prends un ETF qui est assez connu en France, c'est l'ETF CAC 40. Dans ce fonds, tu vas retrouver un bout d'action de chaque entreprise du CAC 40. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller investir dans chaque entreprise, eh bien, tu as un produit qui te permet d'être exposé finalement à tout l'indice CAC 40.
Si je comprends bien, Raphaël, le cornet CAC 40, la boule de vanille, c'est Engie, la boule de fraise, c'est Total, etc. Mais est-ce qu'il en existe des ETF comme ça dans d'autres domaines ?
Oui, alors c'est justement l'avantage, c'est que se sont développés au fur et à mesure des ETF spécifiques. Pour te prendre l'exemple d'un ETF sur l'énergie, eh bien, tu aurais donc uniquement des sociétés qui sont dans le secteur de l'énergie, un peu comme tu aurais dans le magasin de glace uniquement des saveurs caramel avec toutes les déclinaisons possibles.
J'ai compris l'idée, sauf que les titres financiers, bah, ça ne se mange pas, aux dernières nouvelles. Donc, quel est l'intérêt de tous les avoir ?
Le principal et ce qui fait son succès, c'est que finalement, quand tu es investi sur toutes les boîtes du CAC 40, y a moins de risques de baisse. C'est-à-dire que même si quelques entreprises connaissent des difficultés, les autres pourront compenser. Donc finalement, voilà, ça te permet d'avoir une exposition, un portefeuille un peu plus homogène.
Et ces ETF, ça rapporte autant d'argent que si on investissait seulement sur quelques actifs ?
C'est justement toute la révolution des ETF. C'est-à-dire que à la base, la gestion d'actifs, ça implique pour les gestionnaires d'être très sélectifs, d'aller chercher les entreprises les plus rentables. Donc pour ce travail, ils vous promettent 10% de performance, mais en même temps, ils vous prennent des frais qui sont plus élevés. Ça peut être 3, 4, 5% sur l'argent que vous leur avez confié. Alors qu'avec les ETF, vu que les gestionnaires d'actifs comme BlackRock sont moins présents sur les marchés, ils ont moins besoin de sélectionner les bonnes entreprises, eh bien, ils vous promettent une performance de 5%, mais en même temps, vu qu'ils vous prélèvent moins de 1%, vous vous y retrouvez.
Et c'est comme ça que BlackRock est passé devant les autres gestionnaires d'actifs, les marchands de glace qui étaient eux à l'ancienne.
C'est grâce à tous ces afflux sur les ETF, là où ils sont leaders mondiaux, qu'ils ont réussi à monter sur la première marche du podium à l'échelle mondiale.
On a bien compris le rôle des ETF dans le succès de BlackRock. Alors, je finis mon cornet, on sort du magasin de glace pour parler, tenez-vous bien, du génie d'Aladin.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Direction les États-Unis, l'État de Washington plus précisément, et la ville de Wenatchee, Raphaël, qu'est-ce qu'on trouve là-bas ?
Alors, il faut imaginer une zone industrielle. Dans cette zone industrielle, il y a deux grands bâtiments. On a l'impression que ce sont des entrepôts d'Amazon, alors qu'en réalité, il y a des salariés de BlackRock.
Pourtant, quand on pense à des salariés de gestionnaires d'actifs, on les imagine plutôt à des milliers de kilomètres de là, à Wall Street, à acheter et à vendre des titres sur les marchés.
Ouais, mais là, les BlackRockers, donc les salariés de BlackRock, s'occupent d'Aladin.
Aladin, comme le dessin animé, le tapis volant, Jasmine, tout ça.
Non, pas du tout. Là, on parle d'un super ordinateur. Aladin a été créé dans les années 90. C'est une sorte de grosse machine qui est capable, en fait, d'absorber toutes les données. Et avec ces données, il fait des calculs de risque, des calculs d'investissement. Et c'est lui qui permet à BlackRock de gérer le portefeuille de ses clients et d'investir un peu partout sur les marchés.
Et ça marche comment ?
Bah, Aladin mouline tout un tas de données. Hein. C'est quasiment même la plus grosse base de données du monde. Tu peux trouver le taux de croissance de tous les pays, le niveau de crédit, le niveau de chômage, d'emploi. Tu vas aussi avoir le cours de toutes les matières premières. Enfin, disons que vraiment le but, c'est d'avoir toutes les informations économiques et financières de la planète pour pouvoir investir aux endroits où c'est le plus intéressant, aux quatre coins du monde.
Donc, si je te suis bien, BlackRock propose des ETF, mais aussi des investissements plus classiques qui sont optimisés grâce à cette technologie.
Oui, exactement. Parce que BlackRock est un champion des ETF, donc de la gestion passive. Mais évidemment, quand ils se sont lancés au début, ils ont aussi fait, ils en font toujours, hein, ils font de la gestion active. Donc, ils récupèrent l'argent de leurs clients et ils placent cet argent un peu partout. Pour donner une idée, BlackRock, c'est 16 000 salariés en tout. Les gens qui travaillent chez Aladin, c'est à peu près 3 000 salariés. Ce sont ces gens qui font tourner les ordinateurs, les calculateurs tout au long de l'année. Et ces données permettent donc au reste des salariés du groupe d'investir un peu partout sur la planète.
Cet Aladin marche tellement bien qu'il loue aussi ses services.
C'est ce qu'il y a de plus impressionnant en fait avec Aladin, c'est qu'à la base, c'était un système en interne qui servait à BlackRock pour gérer ses activités et les investissements de ses clients. Et y a pas mal de clients qui ont sollicité à la fin des années 90 BlackRock en leur disant « En fait, ce que vous faites, nous, ça nous plairait bien. » Et donc, BlackRock a commencé à louer la plateforme à ses clients. Alors, BlackRock refuse de communiquer le chiffre précis du nombre de clients qu'il utilise. Il y en a plusieurs centaines dans le monde. En France, il y en a plusieurs, comme BNP Paribas. Moi, je leur ai posé la question et ils sont ravis des services d'Aladin.
Donc, ce n'est pas juste un jeu de mots facile que de parler du génie d'Aladin.
Exactement. Et en fait, Aladin est même tellement efficace que là, on parle de tout ce qui est marché actions, les obligations, enfin les entreprises. Mais figure-toi que Aladin est aussi devenu une passerelle pour BlackRock vers les États. Il y a pas mal d'exemples à citer, mais il y en a un quand même qui est vraiment emblématique, c'est celui de la Grèce. Je sais pas si tu te souviens, mais donc après la crise de 2008, il y a eu la crise des dettes souveraines en Europe. Plusieurs pays se sont retrouvés vraiment en difficulté. Quand la Grèce a commencé en fait à perdre pied avec une dette abyssale, figure-toi qu'il n'était même pas capable en fait, de savoir exactement à qui il devait de l'argent, dans quelle proportion. Et là, BlackRock est arrivé en disant « Écoutez, nous, on a un système qui marche bien avec toutes les entreprises, avec les marchés. On est aussi capable, finalement, d'auditer, de voir globalement le niveau vos dettes, de savoir précisément à qui vous devez de l'argent, qui peut-être vous doit de l'argent. » Ils ont travaillé pendant des semaines, voire même quelques mois. Ils ont à la fin réussi à voir précisément où en était la dette grecque. Et c'est sur en fait, les travaux de BlackRock que l'Europe a bâti son plan de sauvetage avec le FMI.
BlackRock au secours de la Grèce endettée. Quand on entend ça, on a envie de savoir, Raphaël, si BlackRock exploite ses liens privilégiés avec les États et puis aussi avec les entreprises.
Oui, alors évidemment, même si eux s'en défendent, ce qui est normal, quand vous réussissez ce type de coup, vous ouvrez toutes les portes du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, ils ont des relations privilégiées avec toutes les grandes puissances. Et sans considérer qu'ils discutent d'État à État, c'est une société qui compte énormément sur la planète.
On comprend qu'on n'est pas au bout de nos surprises. L'influence de BlackRock est telle qu'on a décidé de lui consacrer un deuxième épisode.
Ouais, et j'ai encore plein de trucs à raconter.
Alors, je rassure nos auditeurs, il ne faudra pas attendre trop longtemps. On se retrouve dès demain pour la suite. Et pour être sûr de ne pas la rater, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires ou nous écrire par mail à cette adresse laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier.
Catch catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com/amazing to start your springtime adventure.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.